Bienvenue pour ce débat sur les classements avec le You Multirank, avec une question: va-t-il révolutionner les classements internationaux? Et bien sûr, si on parle de You Multirank, il nous fallait les initiateurs, ou en tout cas les concepteurs de You Multirank. Guérôme comprend, donc il n'y a pas de problème. On a une traduction simultanée, hein, si vous le souhaitez. Je vois que Sarah met son casque, mais elle me comprend parfaitement en français. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc nous allons commencer ce débat tout simplement en demandant à Guérôme Federkel du CHE allemand, mais qui opère pour la Commission européenne aujourd'hui, mais il va nous l'expliquer, ça, il va l'expliquer mieux que moi, de nous présenter où nous en sommes sur ce classement You Multirank qui a été initié maintenant il y a un ou deux ans, je ne rentrons pas dans le détail des dates, mais qui arrive en fin de conception, en fin d'expérimentation, et qui, et c'est la question du débat, est-ce que ça va révolutionner les classements quand on connaît la multiplicité des classements qui existent? On peut citer les classements français, et puis bien sûr les classements internationaux. Les Français ont une appétence particulière dans les universités pour le classement de Shanghai, hein, dont on parle toujours, mais il y a aussi le classement de nos amis du Times Higher Education. Et donc j'en profite pour saluer Phil Betty, le rédacteur en chef du Times Higher Education, qui va nous rejoindre après la présentation de Guérôme. Sophie Béjean, qui est ici l'ancienne présidente de l'Université de Bourgogne et qui pilote le comité qui est chargé, un peu, je résume, mais d'adapter You Multirank aux spécificités françaises. Bon, c'est un raccourci, c'est pas que ça. Et par ailleurs, qui est présidente de Campus France et du Centre national des œuvres universitaires et scolaires. Et enfin, quelqu'un qui est toujours très exposé au classement, c'est Jean-Michel Blanquer, le directeur général de l'ESSEC. Alors lui, les classements, il est, je dirais pas tous les jours, mais il a son cockpit et il regarde tous les jours quand même ce qui se dit sur son établissement, parce que les business schools sont dans un univers concurrentiel assez féroce. Donc nous allons essayer de voir avec nos quatre intervenants et en débat avec vous les effets des classements. Et puis, est-ce que la création d'un classement sous l'égide, dans un premier temps, de la Commission européenne, donc indirectement des États, peut changer dans la perception qu'ont les institutionnels, les familles et bien sûr, in fine, les étudiants. Donc voilà, je vous remercie et je donne la parole tout de suite à Guérôme Federkel pour qu'il nous fasse cette présentation. Merci Guérôme.
Merci beaucoup pour m'inviter à présenter You Multirank aujourd'hui. But now I have to apologize that I will...
Et maintenant, je suis désolée, je dois m'excuser et je vais devoir passer à l'anglais pour ma présentation. Donc, cette session a un titre pour le moins provocateur. Est-ce que c'est une révolution dans le monde des classements? Vous pouvez en parler peut-être à la fin de cette session. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment une révolution ou non? Et vous pouvez bien entendu parler à Phil Beatty, qui est ici également. Il représente l'ancien régime du classement universitaire, si vous me permettez l'expression. Donc, généralement, les révolutions écrasent les anciens systèmes. Et moi, ce n'est pas vraiment ce à quoi je m'attends. Je pense que si on veut une concurrence au niveau de l'éducation supérieure, de l'enseignement supérieur, je pense qu'il doit également y avoir une concurrence au niveau des classements. Mais je pense néanmoins que U Multirank va avoir un impact sur la discussion universitaire et sur les classements universitaires. Et U Multirank n'a pas encore été publié, donc je pense qu'il aura un impact sur les classements. Donc, dans ma présentation, je vais vous présenter ce qui est nouveau au niveau de U Multirank. Ensuite, nous verrons comment U Multirank fonctionne. Je parlerai de l'avenir, mais également de la première édition, de la première publication de You Multirank en mai. Donc je ne peux pas vous présenter de résultats et j'en suis désolée parce que forcément ils ne sont pas encore publiés. Mais bien sûr, quand on parle de classement, le plus important c'est le résultat de ce classement. Mais vous serez, si vous êtes curieux, vous pourrez voir ces résultats au mois de mai. Donc cette dernière décennie, nous avons vu plus de 10 systèmes différents de classement au niveau de l'enseignement supérieur. Donc la question pourrait être, mais pourquoi avons-nous besoin d'un nouveau système de classement? Donc vous voyez que ces classements sont ici pour la durée. Ils sont publiés de manière assez vaste. Il y a un impact sur les politiques des universités. Ils ont un impact également sur le choix des universités, sur l'immigration, sur les politiques d'immigration. Donc, ils sont là pour la durée, ces systèmes de classement. Donc, pourquoi un nouveau système? Nous pensons, et avec la création de U Multirank, que les systèmes existants n'ont pas forcément aidé les institutions d'enseignement supérieur. Et qu'ils n'ont pas aidé les utilisateurs nécessairement, qu'ils ne donnent pas forcément toutes les informations nécessaires. Donc, ils ne reflètent pas la diversité différents types d'enseignement supérieur. J'y reviendrai dans un instant. Et nous pensons également qu'ils appliquent une méthode simplistique, un petit peu trop comme les ligues de football. Donc, est-ce qu'on peut comparer des universités qui sont des institutions très complexes de la même manière que des équipes de football? Donc, qu'est-ce qui est nouveau avec U Multirank? Tout d'abord, U Multirank veut donner une transparence sur la diversité des institutions d'enseignement supérieur. À l'heure actuelle, les classements s'intéressent à un seul type d'institution, les instituts de recherche, qui représente 3 à 5% de toutes les institutions du monde. Donc je pense qu'il est légitime de se focaliser sur ce type d'institution, bien sûr, mais ça ne reflète pas la diversité des institutions. Il y a énormément d'autres types d'institutions d'enseignement supérieur qui ont des missions différentes, qui ont des profils différents. Et nous pensons qu'il y a besoin d'avoir davantage d'informations et qui arriveraient à davantage d'utilisateurs. Donc l'intérêt, c'est de fournir davantage de transparence et de rendre visibles les excellences au pluriel plutôt que l'excellence sur la recherche uniquement. Peut-être qu'il y a des universités qui sont excellentes pour l'enseignement, et ou qui ont vraiment un engagement très fort au niveau de leur région, mais qui n'ont pas forcément de très bonnes notes au niveau de la recherche. Et donc, nous pensons que cela doit être rendu visible par U Multirank. Et là, je pense que c'est une caractéristique de base de U Multirank. C'est vraiment un système de classement multidimensionnel. Donc, d'un côté, nous avons les indicateurs de recherche, mais nous concentrons sur différentes dimensions, comme par exemple l'apprentissage et l'enseignement, la recherche, le transfert de connaissances, l'orientation internationale et l'engagement régional des universités et des institutions. Et dans un deuxième temps, U Multirank n'aura pas un indicateur ou un index composé. Donc il y aura seulement une note par indicateur. Je vais vous montrer un petit peu comment cela fonctionne dans un instant. Ce sera un système de classement pour les utilisateurs. Chaque classement reflète le système des personnes qui recherchent ce classement. Il n'y a pas juste un système de classement objectif. Donc nous pensons qu'un système personnalisable peut permettre aux utilisateurs de classer les universités par rapport à leurs demandes. Et cela peut refléter la position des institutions d'une meilleure manière. Et il est vrai qu'il n'y a pas un classement objectif. La publication sera uniquement effectuée sur Internet. U Multirank veut vraiment refléter la diversité des universités. Cela signifie que nous voulons inclure des institutions multiples avec différentes missions. Donc il est important de développer un outil qui permettra de comparer des institutions comparables. Il est vrai que ce n'a pas forcément d'intérêt de comparer le MIT avec un IUT local ou une école d'art avec une université. Mais nous voulons utiliser un outil qui puisse permettre de comparer ce qui est comparable. Et je vais vous montrer comment cela fonctionne dans un instant, encore une fois. Ensuite, et là ce n'est pas spécifique à U Multirank parce que beaucoup de systèmes de classement ont différents niveaux de classification. On a des classifications sur toute l'université et ensuite sur différents champs. Par exemple, dans la première année, on va commencer avec le génie électrique, génie mécanique, les écoles de commerce et la physique. Et ensuite, on s'étendra graduellement au fil des années. Donc, dès le début, U Multirank a voulu s'orienter sur les parties prenantes. Donc, on a vraiment eu une phase de consultation intense avec les parties prenantes sur le développement de U Multirank et maintenant sur le développement continu de U Multirank. Donc, on a fait des ateliers avec les parties prenantes. On a parlé des différents index et des indicateurs. Donc, ça, c'est vraiment un aspect important de U Multirank. Toutes les parties prenantes de l'enseignement supérieur, les étudiants, les associations étudiantes, tous les preneurs de décision, si vous voulez, ont pris part au développement de U Multirank. Donc, premier aspect, ce sont donc les index. Je ne vais pas passer en revue tous ces index hein, parce qu'on n'a pas énormément de temps, mais je vais vous montrer un petit peu les listes que vous pouvez trouver sur notre site Internet. On a des indicateurs sur l'apprentissage et l'enseignement au niveau de l'institution et au niveau du terrain. Ensuite, ça c'est quelque chose qui est assez nouveau avec U Multirank. On a un nombre d'index qui sont basés sur des enquêtes étudiantes. Et enfin, pour les institutions qui ont pris part, on a demandé aux étudiants de donner leurs opinions par rapport à l'apprentissage. Donc, c'est une information très importante parce que c'est vraiment ce que l'étudiant ressent par rapport à la classification. Ensuite, on a des indicateurs sur la recherche. Ici, avec une étoile, ça vient d'une base de données. Les autres viennent d'autres sources. On a ici les transferts de connaissances de sources privées, mais également de développement professionnel continu. Ensuite, on a l'orientation internationale. Donc ça, c'est un index un petit peu plus habituel. Donc l'échange, mobilité, activité avec les étudiants internationaux, recherche, publication, ainsi de suite. Ensuite, l'engagement régional. Ici, c'était la dimension la plus difficile. Ce n'est peut-être pas une surprise. On voit quelques indicateurs ici, mais on voit que c'est beaucoup moins développé que les autres dimensions. On a eu quelques soucis à ce niveau-là, notamment par rapport à la disponibilité des données dans ces indicateurs. On ne pouvait pas désagréger les données de certaines universités pour ces domaines spécifiques. Et également, l'orientation ou l'engagement régional n'a pas le même impact pour tous les instituts. Donc, certaines écoles ou certaines universités internationales se focalisent principalement sur l'international plutôt que sur leur région. Donc, on a 5 sous-indicateurs ici, mais généralement, on en a de 20 à 25 pour U Multirank dans son intégralité. Donc, comment est-ce que U Multirank va fonctionner? Donc, le cœur de U Multirank sera l'outil basé sur le web qui reflètera l'approche de U Multirank, donc qui couvrira des profils institutionnels divers, donc pas uniquement des universités basées sur la recherche. Encore une fois, je reviens au besoin de comparer ce qui est comparable avec des classements multidimensionnels. Donc, on couvrira différents profils institutionnels. On aura, pour commencer, plus de 800 institutions d'enseignement supérieur. On a également 500 universités qui participeront activement et qui prennent part aux enquêtes étudiantes, par exemple. Et on aura également 300 universités qui sont identifiés pour des besoins bibliométriques. Et ce sera basé sur des bases de données qui sont publiques. Et parmi donc ces 800 universités, on a également des universités donc de recherche, des institutions régionales, des petites et grosses universités, de nouvelles universités et ainsi de suite. Donc il y aura nous aurons besoin d'identifier les institutions qui sont comparables. Et ça nous amène au deuxième aspect, donc de comparer ce qui est comparable. UMultiRank inclura des profils de cartographie. Donc ce ne sera pas un système de classement ici avec 1, 2, 3. Ce sera un système pour dire quelles sont les institutions qui sont similaires en termes d'âge, en termes de taille, en termes de recherche, en termes d'impact international ou régional. Donc ça sera... C'est très lié à au système UMAP, qui est également financé par la Commission européenne et qui voulait vraiment faire ressortir une classification des universités au sens britannique du terme, donc avec des indicateurs. Et effectivement, UMultiRank utilisera une partie de ces indicateurs pour pouvoir comparer ce qui est comparable. Donc ça sera fait de deux manières. Soit l'utilisateur pourra définir un profil d'institution en cliquant sur des caractéristiques de cartographiques, par exemple petite université régionale, et ensuite donc l'étudiant aura une liste de toutes les institutions qui correspondent à ce profil sur la base de données du UMultiRank. Ou deuxièmement, vous commencez avec une institution, par exemple l'université de Munich, et le système identifie le profil de l'université de Munich par rapport à ses caractéristiques de cartographie, et on verra à ce moment-là combien d'universités sont similaires par rapport à ce profil, et UMultiRank pourra suggérer d'autres universités ou d'autres institutions comparables. Ce sera donc un classement multidimensionnel. Après avoir sélectionné le profil, on verra une table ou un tableau par défaut avec 3 indicateurs par dimension. Donc ça signifie donc 15 indicateurs au total. L'utilisateur verra tous ces indicateurs, donc il pourra augmenter la taille de ce tableau. Il n'y aura pas de score composite. Ce ne sera pas donc un score final ou un score total. Donc on ne veut pas avoir ces scores composés. On pense que ces scores rendent difficile la lecture des profils et rendent difficile la lecture des institutions. On peut avoir des moyennes d'indicateurs et de très bons indicateurs, et cela peut donner des notes un petit peu faussées pour les institutions. Et on voit souvent qu'il n'y a pas de raison théorique ou empirique pour attribuer un certain poids à un indicateur. Pourquoi tant de pourcentage sur la réputation et tant sur la performance? On pense que c'est une manière de fausser la manière de prendre les décisions. Et nous, on pense que c'est l'utilisateur qui doit prendre sa décision, qui doit dire si la réputation est plus importante que la performance, et ainsi de suite. Peut-être que les étudiants ont eux-mêmes une idée forgée, qu'ils ont une idée différente des groupes d'universitaires, et peut-être qu'un étudiant veut trouver une petite université avec des contacts proches avec les enseignants, alors qu'un autre étudiant voudrait une grosse université très tournée vers l'international. Et UMultiRank vous permet de trouver la meilleure université pour les besoins de la personne. Donc, pour nous, il n'y a pas de meilleure université, il n'y a pas de numéro 1, ça dépendra des indicateurs. Certaines universités auront de très bons scores sur certains indicateurs et de moins bons scores sur d'autres. Et ce sera vraiment déterminé par le profil sélectionné par l'étudiant. Donc ce sera effectué grâce à l'outil Internet, comme je vous l'ai dit. La première étape sera de sélectionner un profil d'université. Et ensuite, l'utilisateur sélectionne les indicateurs de priorité, si vous voulez, et il pourra voir les préférences qu'il a sélectionnées. Donc la qualité, c'est vraiment l'utilisateur qui la détermine. Donc l'outil est encore en construction et également, l'outil est top secret, donc si je voulais vous donner des illustrations de ce que vous pouvez voir sur l'outil Internet, par rapport à l'exemple de je pourrais vous donner l'exemple allemand. Je pourrais vous montrer le système allemand et je vous dirais juste que U-MultiRank sera bien mieux, bien plus interactif que le système allemand. Donc ça sera la page d'accueil de U-MultiRank. Ensuite, il y aura des pages pour les experts ou des universitaires. Ensuite, une autre page pour des étudiants. Donc vous aurez différents champs pour ces différentes personnes. Donc ça, c'est le modèle allemand, donc CHE Ranking. Donc vous avez une table par défaut. Donc ici, ce sont des symboles, pas des chiffres. Donc ça, ce sera appliqué également par U-MultiRank. Vous n'aurez pas une classification avec numéro 1, numéro 2 et ainsi de suite. Vous aurez une priorité pour chaque indicateur et les universités seront séparées en 5 groupes. Ça permettra d'éviter cette mauvaise interprétation de certains scores. Si vous regardez des ligues, par exemple, de football, vous voyez que certains scores peuvent vraiment faire une grosse différence au niveau du classement final. Mais ici, on aura donc 5 groupes avec différents symboles. Le tableau par défaut, comme pour U-MultiRank, sera par ordre alphabétique. C'est pour cela que Aachen, Aix-la-Chapelle, est toujours en tête de liste en Allemagne. Et cela ne signifie pas que Aachen est la meilleure université allemande, c'est juste par ordre alphabétique. Et donc, ensuite, vous verrez donc tous les indicateurs comme listés à l'écran. Ce sera un système interactif, comme je vous l'ai dit. L'utilisateur pourra changer ses indicateurs par défaut. Il pourra inscrire ses préférences. Ici, on est limité à 6 indicateurs, mais ce ne sera pas le cas pour U-MultiRank. Vous pourrez sélectionner les indicateurs par rapport à vos préférences. Et ensuite, vous aurez donc un classement personnalisé avec les meilleures universités pour l'étudiant par rapport à ce qui aura été sélectionné par l'étudiant. Donc ici, on voit qu'on a des universités ici qui sont sélectionnées pour leur performance dans ces indicateurs. Et avec U-MultiRank, on verra également que les universités pourront avoir des classements très différents, comme par exemple si un des indicateurs les plus importants est la recherche, on aura des universités très différentes que si l'accent est mis sur l'enseignement et la recherche. Donc ça permettra vraiment de trouver des profils très différents d'institutions. Le lancement est prévu pour le 13 mai. Comme je l'ai dit, les résultats des institutions et sur les 4 champs, donc physique, génie mécanique, génie électrique et école de commerce, seront publiés. Les résultats seront publiés sur le site Internet et les institutions qui participent recevront un paquet avec des informations, avec les indicateurs, les groupes de classement. Donc, comme ils auront été préparés pour le jour de lancement, ils auront une analyse détaillée des données fournies par les étudiants pendant les enquêtes. Ils auront également une illustration générale et également des informations complémentaires. C'est très important parce qu'on pense que U-Multirank doit pouvoir fournir des informations pour que les universités puissent se comparer les unes aux autres, notamment entre institutions comparables. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les associations des IUT sont partenaires de U-Multirank parce qu'ils veulent utiliser les données des indicateurs pour se comparer entre organisations membres. Je pense qu'il y a environ 40 universités techniques qui prennent part à cela. Donc c'est bénéfique pour les institutions. On peut avoir ce classement entre universités. Et je pense que je vous ai également montré que ça aura un intérêt pour les étudiants parce qu'ils pourront vraiment faire un choix par rapport à ce qu'ils veulent eux, pas seulement, ils ne choisiront pas seulement par rapport à la réputation d'une université ou ce qui peut être défini par d'autres personnes. Donc vous pouvez trouver davantage d'informations sur les médias sociaux et sur notre site internet ou en nous envoyant un mail directement. Merci beaucoup de votre attention.
Merci Guéraud pour cette présentation. J'invite Sophie Béjean, Phil Betty et Jean-Michel Blanquer à me rejoindre avec Sarah Piovesan. First question.
Première question. Que pensez-vous de ce nouveau concurrent?
Education est aussi une institution, mais là, on vient d'avoir une présentation d'un classement peut-être d'un type nouveau, à la carte. On va y revenir dans le débat. Phil Betty, first.
Je devrais peut-être vous dire dès à présent que je respecte vraiment le travail de Guéraud et j'admire le projet en tant que tel. De toute façon, je pense que n'importe quel projet qui vise à obtenir davantage d'informations de façon plus nuancée est toujours une bonne chose. Ceci dit, j'ai toute une liste d'inquiétudes sur U-Multirank qu'il faudra adresser dans le cadre de la discussion. Tout d'abord, pas tout n'est nouveau finalement dans cet outil, pas autant qu'on pourrait le croire. Notre classement a 5 grandes catégories. Nous avons une catégorie sur le transfert des connaissances, sur l'environnement d'enseignement et d'apprentissage. C'est vrai que nous nous intéressons aux activités internationales des universités. Notre site internet vous permet justement de désagréger le score global et de regarder à 5 catégories particulières. On a une app sur iPhone aussi. Donc, je pense que bravo bien sûr à U-Multirank pour avoir créé un environnement plus divers et pluridimensionnel finalement. C'est une bonne chose. Pareil pour Thomson Reuters d'ailleurs qui produit notre donnée et permet aussi un accès à des profils tout à fait détaillés. Bon, deuxièmement, un élément très important également, le financement public et les classements financés par les institutions publiques peuvent être assez négatifs. On peut complètement ignorer tout ce qui est privé. Lorsqu'il y a un financement public, généralement, cela donne un certain niveau d'autorité, de prominence, si vous voulez, au sein du système d'enseignement supérieur qui pourrait avoir une influence sur un comportement. Troisièmement, un poids important sur les universités en matière de collecte des données. C'est très onéreux. Bon, alors c'est très bien qu'ils souhaitent ce niveau de détail, mais les demandes faites, les exigences auprès des universités sont très importantes. Ces universités, ces institutions doivent prendre du temps et doivent investir des ressources pour U-Multirank. Ensuite, si vous essayez de juger l'ensemble des universités, quelle que soit la performance, donc performance régionale, d'enseignement, et quel que soit le type d'institution, il vous faut 20 000 universités. Il y a 20 000 institutions d'enseignement supérieur par le monde. Chez nous, c'est vrai que vous ne regardez que des institutions mondiales, mais vous avez 800, 900 institutions. Et de toute façon, nous nous arrêtons à 400 dans notre analyse. Si vous voulez vraiment juger l'ensemble des institutions dans l'ensemble des deux domaines, et c'est vrai qu'il y a différents types d'excellence, bien sûr, vous vous retrouvez avec une base de données qui est vraiment énorme. vous allez devoir vous intéresser à la population mondiale d'institutions d'enseignement supérieur, 20 000 institutions. Il y a aussi eu des boycotts. Hein. La Ligue des institutions de recherche européennes ont décidé de ne pas s'impliquer dans ce système. Ils pensent que le poids est tout simplement trop important. Pareil pour l'unité internationale du Royaume-Uni qui a conseillé les universités britanniques à ne pas participer à ce projet. Et enfin, est-ce que ce n'est pas juste un autre classement? C'est une question aussi. On peut créer des classements sur la base de ce projet, des classements qui sont adaptés, personnalisés. Oui, mais est-ce que les gens ne vont pas utiliser ces données pour créer des listes, encore une fois, hiérarchiques? Alors, j'admire véritablement, honnêtement, ce projet. Et je pense que c'est bien pour le secteur d'avoir davantage de données disponibles. Je pense qu'il y a des défis importants qui se posent. Alors ensuite, je sais que le Sénat, on va dire, britannique, bon, il n'est pas connu pour adorer l'Union européenne, mais il s'était posé des questions justement sur ce projet Multirank et la baronesse Young of Hornsey, qui gère justement la House of Lords, la Commission européenne, pense que ce n'est pas une bonne utilisation de l'argent du contribuable, qu'il existe déjà suffisamment de classements qui contribuent de façon valable à l'évaluation de la qualité des universités. Donc, très bien d'avoir davantage de données et d'informations. Il y a des questions qui se posent tout de même sur, sur ce projet. Est-ce qu'il va vraiment devenir le projet de référence? Je n'en suis pas certain. Ça reste un défi.
Merkel, sur toutes ces attaques, tous azimuts. Peut-être, Sophie Béjean, vous pourriez nous expliquer comment vous avez essayé d'adapter les critères de U-Multirank pour la France, puisque chaque pays a fait un travail d'adaptation des critères pour ses propres établissements.
Alors, la première chose qu'il faut dire, c'est que la France a fait un choix qui est un choix fort et assumé, puisque les conférences d'établissement, la CPU en premier lieu, mais aussi les autres conférences d'établissement et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche ont décidé d'entrer dans le projet Multirank en créant un outil d'information qui a vocation à produire effectivement les mêmes grandes dimensions que Multirank et selon les mêmes principes que Multirank, c'est-à-dire avec l'idée que cet outil d'information est personnalisable par les usagers et en particulier les étudiants. Et ce choix, c'est un choix qui a été assumé et volontaire et qui a amené l'opérateur qui a été mandaté pour le faire, qui est l'OST, l'Observatoire des sciences et techniques. Toute l'équipe est là, la directrice, la chef de projet. Donc, mandaté l'OST pour travailler étroitement avec le CHE, avec l'équipe de Guéraud, et pour conduire le projet avec des adaptations qui permettront de tenir compte des spécificités, peut-être culturelles aussi, et des attentes du public et des établissements français. Alors, je pense qu'il faut bien préciser ça, parce que si ce choix a été fait, ce n'est pas par hasard. C'est parce que je pense qu'il y a une vraie attente des étudiants, du grand public aussi, mais aussi des établissements, de l'ensemble des établissements, des écoles, des universités, de rentrer dans un processus de transparence de l'information, de rentrer dans un processus qui est aussi de qualité, de démarche qualité pour les établissements. Et ça passe y compris par la capacité à dire quel type d'établissement on est, quelle discipline on offre, avec quel service pour les étudiants, avec quel environnement en matière de recherche, de transfert. Et ce choix-là, il est assumé. Il est assumé en même temps, c'est un processus qui est expérimental pour l'instant et qui est donc de ce fait forcément complexe, parce que quand on démarre quelque chose de nouveau, il y a des adaptations, il y a une organisation à mettre en place, il y a un calendrier à mettre en place. Donc on est dans un processus expérimental. Mais quand même, la volonté était très forte. Alors elle était à la fois institutionnelle, mais elle se voit à travers quelque chose qui est très fort, c'est le nombre d'établissements qui ont souhaité rentrer dans le processus. Et c'était sur la base du volontariat. Et pour vous donner donc le chiffre, au départ, 134 établissements, dont 42 universités, étaient volontaires pour participer à l'expérimentation et à la construction de cet outil de caractérisation des établissements d'enseignement supérieur. Et il faut aussi souligner que 11 presses, les futurs communes, étaient aussi volontaires. Communauté d'universités et d'établissements.
Donc aussi communauté de français en français et de français en anglais.
D'université et d'établissement. Donc, en tout cas, voilà, 11 groupements d'établissements étaient volontaires aussi pour entrer dans le processus au départ. Alors, comme c'est expérimental et qu'il y a trois types d'enquêtes, à l'arrivée, le nombre d'établissements qui ont été jusqu'au bout du processus pour cette première phase expérimentale est évidemment moins important, mais quand même, ça souligne une très forte adhésion à la démarche, à la finalité de cet outil. Et s'il y a des critiques qui sont naturelles dans une phase expérimentale, en fait, elles sont liées au processus et au calendrier, mais certainement pas à la finalité. Autre chose que je voudrais dire à propos de la finalité de cet outil, et de l'intérêt de s'inscrire dans la démarche de Multirank, c'est quand même les attentes des étudiants. Pour la France, on a mis en place un comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il y a à la fois les conférences d'établissement, la CPU, mais il y a aussi les acteurs institutionnels qui sont experts en matière de production des données, et notamment de données sur les services aux étudiants, la vie étudiante, la formation, mais aussi la recherche. Et dans le comité de pilotage, il y a toutes les organisations étudiantes. Toutes les organisations étudiantes. Il se trouve que depuis qu'on a démarré Multirank, la ministre m'a aussi confié le soin de présider le comité pour l'élaboration de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Nous avons auditionné toutes les organisations étudiantes il y a quelques jours maintenant. Et je peux vous dire que la demande de toutes les organisations étudiantes, sans exception, c'est d'avoir des outils d'information sur les formations, les établissements, l'environnement, la qualité des formations, les services offerts aux étudiants, l'appui à la recherche, l'environnement scientifique, les liens avec le monde socio-économique. Bref, tous ces éléments qui sont en fait très attendus. Puis bien sûr aussi des éléments en termes de qualité, l'insertion professionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme spécificité dans l'outil qu'on est en train d'élaborer pour la France, spécificité par rapport à Multirank? C'est des spécificités déjà liées au choix des disciplines, parce que nous souhaitions que les établissements qui sont plutôt qui ont des spécialités en sciences humaines et sociales, mais que les disciplines de sciences humaines et sociales, d'une manière générale, puissent se reconnaître et éventuellement se tester dans le processus. Et donc, on a choisi d'inclure une discipline de SHS, de sciences humaines et sociales, qui est la sociologie. Notre spécificité qui est liée aux sciences de l'ingénieur, puisque les écoles d'ingénieurs en France ont souhaité qu'on ne distingue pas les différentes disciplines de sciences de l'ingénieur. Ça, c'est un choix sur l'expérimentation, c'est de pouvoir avoir une palette de disciplines qui intègre mieux à la fois les SHS et puis la spécificité des écoles d'ingénieurs françaises. Un autre... Oui.
Les quatre disciplines, les quatre, j'ose pas dire classement, mais qui paraîtront le 13, là, dont Guéro a parlé. Il n'y avait pas la sociologie, là. Il y avait
Alors, dans business. Le projet européen, il n'y a pas la sociologie. Il y a business, physique, génie électrique, génie mécanique. Voilà. Pour le projet français, il y a en plus la sociologie et le regroupement de génie électrique et génie mécanique en sciences de l'ingénieur. Il y en aura quatre aussi,
mais
un petit peu différentes. L'autre point, c'est que je pense qu'en France, la culture en France, c'est quand même d'accorder du poids aux données, je dirais, factuelles, je ne sais pas si c'est le mot bien adapté, mais disons en tout cas objectivées, partagées et validées dans un processus à la fois méthodologique et de collecte des données qui donne une indication sur la qualité de ces données et sur le fait que ce sont non pas des données de réputation, non pas seulement des données de satisfaction, mais aussi des données quantitatives, mesurées, mesurables, objectivables. Et donc là, il y a un processus qui a été mis en place avec les établissements et le ministère de l'Enseignement supérieur, en particulier le CIES, qui est le service de production des statistiques et des indicateurs, pour que ces données-là aient une place importante dans les données qui seront collectées et rendues publiques et accessibles aux étudiants, comme aux autres usagers ou aux établissements en particulier. Donc ça, c'est un point de spécificité aussi pour la France. Et puis l'autre point, c'est que les étudiants et les organisations étudiantes, je vous ai dit qu'ils étaient très impliqués et parties prenantes dans cette affaire, ont souhaité que soient ajoutés des indicateurs liés à la vie étudiante, à l'aide sociale, à l'accueil des étudiants handicapés, des données d'insertion professionnelle également, et des données d'insertion professionnelle contextualisées, parce que évidemment, selon la zone géographique, la discipline, le secteur d'activité économique, la qualité de l'insertion professionnelle, elle ne se mesure pas en qualité, elle se mesure relativement à cela. Et donc, contextualiser les données d'insertion professionnelle, c'est évidemment un point fort. Donc, il y a à la fois un travail qui a été fait, qui est en cours, qui se prolongera au-delà de cette phase expérimentale, avec les organisations étudiantes, mais aussi un travail avec à la fois les établissements et les services dans les établissements qui sont impliqués dans la production des données et des indicateurs. C'est souvent les services de pilotage ou les services d'enquête de vie étudiante dans les établissements qui sont associés au processus en France et qui ont participé notamment à un séminaire de retour d'expérience de la première vague d'enquête il y a le mois dernier. Et c'est tout à fait intéressant aussi de le faire de cette manière-là, parce qu'on a un processus collaboratif avec les établissements qui s'est mis en place, qui va se prolonger et qui fera aussi que la base de données qui sera produite, elle sera partagée par l'ensemble des parties prenantes et en premier lieu par ceux qui produisent ces informations.
Je disais que vous étiez déjà dans le chaudron un peu sur ces questions de classement. Pour les business schools, c'est un enjeu considérable sur le recrutement des étudiants et sur l'image et l'insertion professionnelle de vos diplômés. Alors justement, quel est votre regard à la fois sur le Times Higher Education qui fait des classements aussi sur la réputation, ce que vient d'annoncer et de présenter Gero Federkel, c'est-à-dire ce classement à la carte interactif où l'étudiant tout compte fait va pouvoir faire un peu ses courses. Quel est votre sentiment par rapport à ces présentations? Et le débat peut-être aussi qui nous permettra de poursuivre sur les classements un peu officiels et les classements faits par le privé et les médias.
Oui, peut-être en commençant par votre dernière question pour aller du général au particulier. Chacun est bien conscient que la question des classements est une question centrale et fondamentale. On peut même, si on veut aller vers le très général, se dire que finalement aujourd'hui, l'enseignement supérieur et la recherche, c'est le sujet central de tout pays. Aussi bien comme pour la vitalité du pays que pour son en tant que moteur économique, que la régulation de ce domaine se fait notamment par les classements et que donc ce qui se passe en matière de classement en réalité est au bout du bout du bout peut-être un enjeu, un des tout premiers enjeux de politique au sens fort de ce terme dans le monde d'aujourd'hui. Donc ça n'est pas une petite question, y compris si on a une approche de l'enseignement supérieur et de la recherche sous l'angle économique en tant que secteur économique en expansion. C'est parfois dans certains pays le premier secteur économique en expansion. La question du classement n'est donc pas du tout une question marginale. Et donc, quel que soit le jugement moral, technique que l'on porte sur les classements, on ne peut que reconnaître que le sujet est crucial. À partir de là, pour une école comme l'ESSEC, ce qui est objectivement vrai devient subjectivement absolu. Autrement dit, on a absolument besoin de tenir compte des classements, quelle que soit la critique que l'on fait des classements. C'est-à-dire que même si vous, si vous courez le Tour de France et que vous vous rendez compte que votre vélo, qu'on met des bâtons dans vos roues, dans votre vélo, même si vous n'êtes pas content, vous continuez quand même à courir parce que vous n'allez pas vous mettre à faire d'autres sports en plein milieu du Tour de France. Donc on a des règles du jeu, elles valent ce qu'elles valent, mais on est obligé de jouer ces règles du jeu. À partir de là, ces règles ne sont pas statiques. Et il me semble que nous sommes aujourd'hui dans un moment du temps, on est un peu au milieu du guet, un moment du temps où on voit bien que d'abord, si on regarde 10 ans en arrière, énormément de choses se sont passées en 10 ans en la matière et se sont en quelque sorte imposées à nous, créant une forme de régulation avec des effets très positifs et des effets très négatifs. Et il faut vraiment faire la part des choses là-dessus. Et que donc, sur les 10 prochaines années, il va encore se passer beaucoup, beaucoup de choses. Et de ce point de vue-là, je regarde avec beaucoup de curiosité ce qui va se passer avec U-Multirank. Nous, on a joué le jeu, on a répondu, on est dedans. Enfin, j'espère.
C'était pour faire dire à Gero Federkel un peu les...
En tout cas, on a répondu. Comme on répond à d'autres classements. On est désormais, comme beaucoup d'institutions, outillés pour cela. C'est devenu une fonction importante, comme une sorte de modernisation des fonctions statistiques qu'il y a dans toute institution d'enseignement supérieur. Et on regarde ça avec beaucoup de curiosité parce que il y a quand même plusieurs enjeux qui ont été mentionnés, qu'il faut en effet souligner. Bon, d'abord, celui que vous venez de mentionner, c'est-à-dire finalement, on a un classement venu de la puissance publique. Donc là, il y a effectivement un véritable débat à avoir sur les classements venus des journaux en particulier et puis ceux venus de la puissance publique. Mais c'est vrai que j'adhère assez à l'argument consistant à dire que puisque les classements eux-mêmes stimulent la compétition entre les écoles, il est normal qu'on stimule aussi la compétition entre les classements. Il m'arrive parfois de rêver de publier un classement des classements avec mon école pour qu'il y ait un petit peu de symétrie dans le jeu. Mais en tout état de cause, il est bien normal que tout ceci se passe dans une certaine compétition. Donc de ce point de vue-là, il me semble que c'est normal. Que ce soit l'Europe qui le fasse, je pense que c'est bien parce que il est bon que ce soit une puissance publique supranationale qui le fasse, parce que ça donne peut-être de plus grandes garanties encore d'objectivité. En tout cas, c'est ce que l'avenir nous dira, mais c'est un point intéressant. Enfin, la logique multicritère adoptée me paraît intéressante pour avoir une approche un petit peu globale des questions et en même temps être capable d'avoir une approche particulière. Ce qui fait que par rapport à ce qu'a dit Phil Batty, je me demande s'il y a une véritable contradiction parce qu'il est normal qu'on ait d'une part des classements assez hiérarchisants sur des domaines particuliers, par exemple les meilleures universités technologiques mondiales, les meilleures business schools mondiales, la réputation, et puis après des sujets comme par exemple on a des classements maintenant sur l'usage des réseaux sociaux par les institutions d'enseignement supérieur, et puis que par ailleurs on ait une capacité à avoir une vision globale. Donc je pense que voilà, ça fait un acteur très important nouveau dans le système et que a priori c'est plutôt une bonne chose en soi.
La légitimité d'un pouvoir public, d'une puissance publique à lancer un classement, enfin un classement qui n'est pas vraiment un classement, mais qui contient quand même sa propre subjectivité, vous paraît, ne vous gêne pas. Enfin, pour vous, c'est légitime, et qu'il y ait un nouvel acteur dans le jeu, c'est mieux que s'il n'y était pas.
Il me semble que le portrait robot du meilleur acteur, c'est un acteur indépendant ayant les moyens et l'ampleur pour assumer cette indépendance. À la fois les moyens techniques et les moyens institutionnels de cette indépendance. Donc, ce qui a été utilisé pour U-Multirank me paraît correspondre à assez bien à ce portrait robot. On pourrait imaginer aussi que l'ONU fasse quelque chose de ce type. Parce que je pense que c'est intéressant de voir dans quelle mesure on arrive un peu à
les organisations de l'ONU font des classements bien sûr. Sur les critères dans les pays en dehors de l'éducation.
Et puis, on voit bien qu'il y a. J'ai commencé en mentionnant des enjeux qui sont pratiquement des enjeux presque de science politique par rapport au pouvoir que ça représente de classer. On voit bien aujourd'hui qu'il y a des zones entières du monde qui sont un peu dans l'ombre. Si je regarde par exemple, moi qui regarde un peu l'Amérique latine, voire beaucoup, les universités d'Amérique latine apparaissent presque pas dans les classements de Shanghai ou dans le classement du Times Higher Education. Elles sont très peu nombreuses. Et on a parfois le sentiment d'une sorte de périphérisation de certaines parties du monde, parfois même de l'Europe du Sud, qui pose questions, qui pose des questions qui sont intéressantes à approfondir. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est au milieu du gué, parce que je pense qu'on est loin d'être dans une situation parfaite et que ça va sans doute s'améliorer par le jeu de la compétition dans les temps à venir.
Phil Batty, vous avez utilisé le mot d'autorité, si j'ai bien compris, quand vous avez parlé des pouvoirs publics et de leur légitimité ou pas à créer un outil qui ressemblerait à un classement. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Est-ce que c'est votre côté britannique qui n'aime pas trop tout ce qui est État.
Je pense qu'il y a un aspect très important quand on regarde les universités, les plus grandes universités du monde. On voit que la plupart ont une certaine autonomie en termes, par exemple, si on regarde à Oxford, Cambridge, Princeton et ainsi de suite. Je sais qu'en Europe, c'est différent par rapport à l'autonomie des universités et l'impact de l'État sur ces universités. Mais quand on parle de classement, tous ces classements ont une responsabilité et on crée une incitation perverse, si vous voulez. Cela incite les institutions à rechercher une amélioration dans le classement plutôt qu'une amélioration dans leur enseignement et ainsi de suite. Et effectivement, cela peut avoir un impact sur les listes et ainsi de suite. Mais pour moi, s'il y a une institution publique ou un État qui dit, voilà, on a financé cela, c'est nous qui l'avons créé, même si c'est par accident, même si c'est une réaction naturelle, par défaut, ça devient l'autorité, le dirigeant de University College London, UCL, disait qu'il y avait un aspect, un impact pervers créé par les classements. Et il disait que si un État finance une institution, cela aura un impact négatif sur cette institution. Et il disait que ces financements publics donnent un aspect positif. Mais même si on dit que non, on ne fera pas ceci, on ne fera pas cela, le secteur verra que si on a des indicateurs, si on a certaines données, cela aura un impact sur le classement. Et pour moi, je pense que c'est bien d'avoir davantage de données, et c'est bien que Multirank amène ces différentes données et ces différents indicateurs, mais je pense que ça ramène une couche sur les difficultés d'autorité. Et je pense que cela sera un petit peu plus difficile pour l'autonomie des universités.
Je vous laisse remettre votre traduction. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous-même avez une autorité et que vous avez aussi imposé une forme d'université au travers de vos critères qui font qu'il n'y a qu'un certain modèle qui peut figurer dans la top list et que quelque part c'est aussi une forme d'impérialisme, on pourrait dire. Hein ? Libéral.
Eh bien, je pense que Guéraud a raison. Les différents types d'universités ont besoin de différents types de mesures pour mesurer ces différentes forces. Donc, si vous êtes spécialisé au niveau national dans la mobilité sociale, eh bien, c'est quelque chose qui est bien, qui est positif et qui doit être célébré. Et c'est très bien si on peut mesurer cela. Si vous créez de l'emploi local, c'est formidable et c'est très bien si les universités peuvent le faire et peuvent être mesurées de cette manière. Par rapport à notre classement, nous classons un certain type d'universités. Les universités, donc c'est comme ça que vous l'appelez, donc les meilleures universités de recherche, ou est-ce que c'est juste les meilleures universités du monde? Ce sont les meilleures universités du monde, mais nous, on explique la méthode pour créer ce classement. On s'arrête au numéro 400, ça représente environ 500 universités dans le monde qui ont suffisamment de recherche, qui publient suffisamment, donc le groupe Leiden, on l'appelle. On s'arrête à 400. Donc je pense que ce qui serait irresponsable, c'est d'en inclure 700, 800, même 900. Je pense que ça, ce serait complètement ridicule, parce que ça signifierait que toutes les universités doivent être jugées sur cette longue liste, et que si vous êtes 800e du monde, si vous essayez un petit peu plus comme Harvard, vous pourriez arriver au numéro 700. Mais ce sont vraiment les meilleures universités de recherche qui peuvent avoir différents types de financement, différents types de recherche, mais qui publie régulièrement dans des journaux internationaux dans des magazines internationaux, qui recrutent à l'international des étudiants. Et avec le Times Higher, ça fait 10 ans que l'on fait cela, mais en 2009, on a tout revu, on a révisé tout notre système, on a revu tout notre système de données. Et pendant 10 mois, on a fait une consultation publique. On n'a pas imposé un modèle, on a pensé, voilà, ce sont les modèles qui sont importants avec l'enseignement, la recherche, est-ce que vous êtes internationaux, comment est-ce qu'on mesure cela. On a eu des enquêtes, des débats ouverts. Donc nous, on sert la communauté et c'est la communauté qui nous dit comment mesurer ces aspects. Et certains sont les mêmes que You Multirank, beaucoup sont les mêmes.
Le côté autorité publique.
Eh bien, je ne veux pas commencer une discussion sur la différence entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Donc, est-ce que la communauté européenne est meilleure que la Chambre des Lords ? Bon, bref, je ne suis pas forcément complètement d'accord sur l'impact négatif du classement sur le financement public. Je pense qu'effectivement, il y a une autorité, mais d'un côté, on a la Commission qui a dit depuis le début que ce ne sera pas la Commission ou le classement de la Commission, ce sera un classement You Multirank qui aura été initié par la Commission. Et je pense que, effectivement, le stimulus, donc ce financement, vient de la Commission, mais c'est pour un maximum de 4 ans. Et une des tâches du projet, c'est de trouver un business model pour trouver un financement sans avoir à nous en remettre à l'Union européenne constamment. On voit également des initiatives privées de classement qui ont un impact également et qui ont un impact négatif notamment. J'ai mentionné certains de ces impacts sur les échanges internationaux, sur les politiques d'immigration. Je pense que ce sont des effets pervers du classement qui sont en partie financés par le privé. Donc je pense que ça, il faut faire attention à cela. D'après moi, c'est les classements qui ont ces tableaux simplistes peuvent être utilisés à mauvais escient beaucoup plus que notre système. Un système qui a un numéro de numéro 1 jusqu'au numéro 200 peut être utilisé à mauvais escient beaucoup plus. C'est pas une question de financement, mais une question de méthodologie. En Allemagne, les ministres, avec le système CHE, heureusement, ce système est suffisamment complexe pour empêcher les politiques de l'utiliser. Et je pense que ce sera la même chose avec You Multirank. Ce sera difficile de baser des politiques de financement sur le classement. Et on ne pourra pas se baser sur le classement You Multirank, alors que les classements 1, 2, 3, 4, 5 peuvent être utilisés à mauvais escient, notamment par les politiques et pour les politiques de financement.
Alors, je pense que peut-être sur ces questions de débat et puis sur la position de la. Enfin, les choix qui ont été faits pour la France par rapport au multirank. D'abord, je ne saurais que trop conseiller, y compris à Jean-Michel Blanquer, qui appelait de ses vues une étude de comparaison des classements entre eux. Donc, je vous conseille la lecture d'un article à paraître, excellent article de Ghislaine Filiatro et Philippe Vidal, qui précisément compare les atouts, les inconvénients et ce que ça produit comme résultat, la comparaison de ces classements. Parce que, évidemment, dès qu'on a.
Apparaître dans AEF.
Il y aura une interview, on négociera. En tout cas, c'est évidemment intéressant de regarder ce que ça produit. Et les différents classements vont produire une vision du monde universitaire, des établissements qui seront différents. Une autre remarque que je voudrais faire, c'est que à l'heure de l'open data, qui arrive, la transparence des données, la transparence des méthodologies, l'accès à cela pour tous me paraissent comme des horizons incontournables. Et à cet égard, il me semble que la démarche qui a été retenue avec U Multirank est assez intéressante parce que il s'agit bien de donner cet accès à tous et en particulier aux étudiants qui en sont demandeurs. Une autre remarque, c'est l'évolution de la mobilité internationale des étudiants. Je pense qu'elle
qui est une des raisons de U Multirank.
Oui, qui est une des raisons et qui se transforme et qui n'est plus seulement celle des élites ou celle de ceux qui veulent accéder.
Des initiés.
Oui, des initiés, de ceux qui veulent accéder aux meilleurs établissements de recherche, par exemple. C'est une mobilité qui va donner une expérience pour tous les étudiants, enfin, en tout cas, pour une part croissante et qui croît très vite. Et donc, pour eux, voilà, ces futurs étudiants en mobilité, il y a aussi besoin d'une palette d'informations assez vaste et qui permettent à tous de se faire une idée du profil des établissements, de leur qualité, de les services dont ils pourront bénéficier, etc. Donc moi, je pense que ça, U Multirank aussi répond à ça. Et le fait que la France soit entrée dans le processus avec le projet CRS, c'est à la fois pour informer les étudiants en France, certes, mais c'est aussi pour informer les étudiants étrangers qui voudraient venir en France et les étudiants français qui voilà, s'inscrire dans un processus international. Et puis derrière...
Oui. C'est peut-être ce qui différencie aussi U Multirank du classement du Times Higher Education, où Phil Betty était à Tokyo, il était à Shanghai. Il y a un aspect mondial, avec aussi la langue anglaise du Times Higher Education, l'histoire britannique, qui fait qu'il y a la question de l'attractivité des étudiants asiatiques, africains, etc., qui n'est peut-être pas le même niveau aussi aujourd'hui de U Multirank, qui est plus sur la mobilité intra, dans un premier temps, en tout cas, intra-européenne.
Enfin, il a une vocation, je ne réponds pas pour Guéraud, mais je sais quand même que la vocation est internationale et pas seulement européenne. Donc, c'est d'informer les étudiants dans le monde, et il y a des pays au-delà des frontières européennes qui sont associés au projet. Alors, la dernière remarque, c'est l'équilibre entre la part institutionnelle et l'autorité publique et la part des acteurs du marché. Bon, peut-être que c'est spécifique à la France et à l'Europe, mais je trouve que là aussi, le fait qu'il y ait une incitation qui soit donnée par la Commission européenne comme processus de construction d'un nouveau projet, qu'il y a un mode collaboratif et qu'en France, et on était très attentif à ça, à la fois dans la relation avec les partenaires européens, le CHE, le CHEPS, mais aussi à l'intérieur de la France, c'est-à-dire mode collaboratif avec les établissements, avec toutes les parties prenantes, avec les établissements français, avec les organisations étudiantes, avec le ministère. Ben, voilà, ça, ce mode d'élaboration d'un projet d'intérêt général, me semble-t-il, c'est aussi un endroit qu'on place dans le curseur qui n'est ni complètement le marché, ni complètement public. La base de données qui sera produite, le site qui sera mis en ligne par U Multirank au mois de mai, qui a vocation, bien sûr, à être plus complet, etc., dans les phases ultérieures, sera pas sous l'autorité de, et pour autant, il y aura eu ce processus collaboratif qui me paraît vraiment intéressant comme étant une caractéristique tout à fait adaptée à la culture européenne. Merci. Peut-être.
Juste, Jean-Michel, Sophie Béjean, juste pour avoir les chiffres du nombre d'établissements français qui participeront à la première version là en mai. Vous avez dit au début, il y en avait 120, dont 40 universités.
Alors, le volontaire, 134 établissements au total, dont 42 universités. Alors, il y a différentes enquêtes. Il y a une enquête plus sur des données institutionnelles, une qui est plus sur des données liées à la discipline, donc à chacune des disciplines retenues, et puis les enquêtes auprès des étudiants. Alors, pour vous dire, les deux premières enquêtes institutionnelles et par discipline, il y a respectivement 85 et 71 établissements qui ont répondu. C'était donc un taux de réponse quand même très fort hein, par rapport à la volonté d'entrer dans le processus. Et ceux qui ont pu mettre en œuvre l'enquête étudiant dans les délais qui étaient un peu serrés, il faut bien l'avouer. Mais bon, c'est que la première phase. Hein. On espère bien qu'on tirera des enseignements de cette première phase. Il y a 26 établissements voilà, qui ont
et
répondu.
Et on peut savoir s'il y a une majorité d'universités ou d'écoles ?
Alors, très clairement, ce que disait Jean-Michel Blanquer, je crois, tout à l'heure, est assez significatif. Les écoles sont plus habituées dans ce processus-là. Et les données qu'il s'agissait de produire n'étaient pas des données existantes préalablement dans les universités. C'est-à-dire qu'il s'agissait de reconstruire des périmètres pour que ce soit comparable avec les données des autres pays européens. Et donc, il y a une construction et une élaboration qui étaient moins préparées dans les universités. Donc la proportion d'universités est moins grande. Mais ils sont très impliqués, et notamment ils restent dans le processus collaboratif. Et ils sont venus, les universités étaient présentes, par exemple, dans le séminaire, enfin l'atelier, le méthodo, retour d'expérience qu'on a mis en place, parce que s'ils n'ont pas pu faire remplir et mettre en œuvre l'enquête étudiant, cette fois-ci, notamment pour des raisons de calendrier, et parce que l'OVE, l'Observatoire de la vie étudiante en France, lance aussi des enquêtes auprès des étudiants, donc il y avait un petit conflit de date et d'agenda. Pour autant, les universités étaient présentes à cet atelier parce qu'elles veulent continuer et rentrer dans le processus. Donc, il y a une démarche qui est lancée. Moi, je suis convaincue qu'elle se prolongera. Ça fait partie des attentes des étudiants, ça fait partie des attentes des établissements pour faire connaître ce qu'ils sont dans toutes leurs dimensions. Et donc, voilà, je crois vraiment à ce projet qui connaîtra des critiques, bien sûr, qui, dans sa phase expérimentale, a quelques balbutiements, mais ce n'est pas un problème, en fait.
Merci. Avant qu'on va passer aux questions avec la salle, donc vous allez reprendre la parole, mais on va demander qui veut intervenir dans la salle. Puis on demandera quand même tout à l'heure à Phil Betty qui nous explique pourquoi la France disparaît un peu des écrans radars dans le dernier classement du Time Higher Education. On verra si elle disparaît des écrans radars le 13 mai sur YouMultiRank. Qui veut poser une question? Vous vous présentez, merci.
Alors, bonjour, Ludovic de Courtivron, chargé d'insertion professionnelle à l'Université Paris Diderot. Et ma question s'adresse à Guéraud, donc merci pour votre présentation. Je me demandais simplement, pour un simple étudiant, d'avoir une telle quantité d'informations, c'est déjà très précieux d'avoir autant d'informations sur toutes les universités, mais pour un étudiant qui a besoin peut-être d'un outil aussi d'aide à la prise de décision, est-ce qu'il est prévu une forme de vulgarisation ou de lecture un peu plus simple du... Alors, je ne sais pas avec lequel je... Okay. Est-ce qu'il est prévu un degré de lecture peut-être plus accessible pour un public non initié avec le degré d'information et de data que vous allez collecter, en fait?
Yeah, thank you very much for this question.
Merci beaucoup pour cette question. C'est dommage, effectivement, que je n'ai pas pu vous montrer un premier jet. Il y aura un YouMultiRank spécifiquement pour les étudiants qui réduira la complexité des informations, donc, notamment pour les institutions complexes. Donc, il y aura une cartographie beaucoup plus simple. Ils répondront à des questions, notamment quel type d'institution ils aimeraient étudier, et ils auront une comparaison basée là-dessus. Ensuite, ils pourront présélectionner des indicateurs par défaut, comme par exemple sur l'apprentissage et l'enseignement. Il y a également deux associations étudiantes qui ont pris part au développement du système et de l'outil informatique, ISU et HE. Et on a parlé avec ces associations et ils ont donné leur retour sur les outils, notamment du point de vue des étudiants. Ça nous a vraiment aidé. Bien sûr, il y a un petit dilemme. Est-ce que l'on veut fournir un système élaboré de choix et d'informations? Et d'un autre côté, on veut avoir un système assez simple. Et donc, il faut bien entendu trouver un équilibre entre les deux. Mais nous espérons avoir trouvé cet équilibre. Au niveau du consommateur, donc de l'étudiant, Ben Wildowski, qui a créé le système américain, il a donc écrit un article sur le... et il dit qu'il faut en fait revenir à l'âge des cavernes et ne pas oublier que l'Homo sapiens adore les hiérarchies. Il ne faut pas oublier qui est le premier, qui est le second, qui est le chef, qui est en dessous. Et c'est pour cela que le classement des universités est né. Et avec MultiRank, avec enfin, tout le monde va créer un classement à un moment ou à un autre. Et à quel niveau que ce soit, il y aura toujours un classement. J'ai passé du temps à Pékin, à Tokyo, à Séoul récemment. Les familles chinoises ont souvent un seul enfant, ont souvent mis beaucoup d'argent de côté pour envoyer leurs enfants dans de très bonnes universités. Ils ne vont pas regarder des petites lumières, des petits rouges, des points noirs, des points verts et ainsi de suite. Ils vont regarder 1, 2, 3 et ils vont envoyer leurs enfants dans les meilleures universités qui seront hiérarchisées, qui auront la meilleure note. Donc je pense que d'une manière ou d'une autre, il y a besoin de simplicité, il y a besoin d'avoir des listes simples, faciles à lire.
J'ai une question à Jean-Michel Blanquer. En fait, on a beaucoup parlé des disciplines, des réputations d'établissement. Donc d'un côté, une partie du tout. De l'autre côté, le global, d'ailleurs la France disparaît des écrans radars du Times Higher Education, vous êtes confronté à l'ESSEC, à des politiques de marque très fortes, il y a le classement des MBA, mais ce qui reste quand même dans l'opinion publique, dans l'inconscient collectif, c'est est-ce que HEC c'est meilleur que l'ESSEC? On ne dit pas est-ce que le MBA de HEC, tout compte fait, on raisonne comme ça. Est-ce que ça vous paraît plausible demain qu'on ait la réputation des établissements sur simplement un aspect? Harvard, par exemple, personne ne sait. On dit toujours Harvard, c'est la première université du monde. Bon, ça se trouve, il y a des choses lamentables à Harvard. Enfin, je me fais l'avocat du diable, mais on est dans des stratégies de marque. Hein, c'est un peu là comme les clubs de football, quoi. C'est, on retient l'ESSEC, on retient, et d'ailleurs il y a des universités présentes dans la salle qui commencent à développer en France des stratégies de marque. Je ne les citerai pas pour ne pas faire de jaloux, mais comment articuler les classements des parties avec les classements du tout?
Oui, très bien. Pour vous répondre, je fais un petit détour sur un point, puisque vous venez de dire que les institutions françaises disparaissaient des classements de type Times Higher Education. C'est en partie vrai et heureusement en partie faux, c'est-à-dire puisque justement les business schools ne disparaissent pas des classements internationaux. Les business schools françaises sont au contraire dans les grands champions mondiaux. Pour commencer à répondre à votre question, si je pose la question quels sont les deux premiers masters en finance du monde selon le Financial Times, selon le Financial Times, mais c'est concurrent privé. Et là, c'est deux masters français. Interrogez l'homme de la rue, que ce soit en France ou n'importe où dans le monde, et vous lui dites quel est le pays qui, à votre avis, a les deux premiers masters mondiaux en finance. Il y a très peu de chances pour qu'on vous dise la France. Donc, c'est déjà un début de réponse à votre question sur le tout et les parties, mais c'est déjà pour souligner aussi ce cas particulier des business schools dans les classements mondiaux. Et là, on pourrait faire plusieurs analyses, hein, y compris le fait que, justement, elles ont été, d'une certaine façon, dans la mondialisation avant la mondialisation et que ça crée une sorte de force dans cette situation. Mais il y a aussi un point qui n'est pas le seul, mais que je voudrais souligner par la même occasion, c'est la question des anciens. Parce que s'il y a bien un point de faiblesse des universités françaises, mais qui peut se corriger dans le futur, c'est la question des anciens. Or, les anciens jouent un rôle très important pour les classements, puisque c'est eux qui répondent à certaines interrogations, à certains questionnaires, d'une part, et d'autre part, pour la marque en général, les anciens portent énormément les choses. Et on sait bien que c'est un point, pour moi qui viens de l'université et qui arrive dans une grande école, on voit une différence gigantesque. Je pense que d'ailleurs, dans le cadre du travail qui va s'accomplir dans les communes où il y aura à la fois des grandes écoles et des universités, c'est un point de savoir-faire qui est une des pistes de progrès pour le futur. Mais sinon, ensuite, pour répondre plus directement à votre question, je crois que des réputations peuvent se bâtir sur des sous-ensembles de compétences d'une institution. C'est pas contradictoire avec le tout, hein, c'est-à-dire on va avoir les deux à la fois. On a déjà les deux à la fois, c'est-à-dire une réputation globale, typiquement Harvard, mais regardez la Sorbonne encore à cette réputation globale, quel que soit ce qu'on met derrière le mot Sorbonne. Et puis, il y a les réputations précises, d'où l'importance de développer des domaines d'excellence que l'on va voir dans certains classements spécialisés ou qui vont tout simplement porter la marque. Et donc, par exemple...
Donc, vive les classements différents.
Ah, je pense, vive les classements différents. Il n'y aurait rien de pire que d'avoir un seul classement et qu'il soit en plus un classement global. Ce serait absurde. On a besoin d'avoir des classements différents, de sans arrêt les mettre en perspective, de les voir évoluer. Comme je le disais tout à l'heure, je pense qu'il y a eu énormément d'évolutions dans les 10 dernières années et il va y avoir énormément d'évolutions dans les 10 prochaines années.
Pour savoir dans les business schools que le côté classement hiérarchique 1, 2, 3, 30, 40, 50 vous sert énormément dans votre marketing. C'est ça que vous mettez en avant et effectivement, je rejoins la préoccupation de simplicité de l'outil. Est-ce que vous pensez qu'avec un outil plus complexe comme YouMultiRank, on comprend la nécessité d'avoir un outil plus complexe parce que l'université est un objet complexe, mais en même temps, le besoin de l'étudiant, est-ce qu'il n'est pas plus basique? Est-ce que vous allez utiliser YouMultiRank dans votre communication?
Oui, mais sur ce point comme sur les précédents, je pense qu'il ne faut pas avoir un raisonnement binaire. Hein. C'est-à-dire, je pense que, par exemple, ce n'est pas parce qu'on valorise le tout qu'on ne valorise pas les parties. Ce n'est pas parce qu'on parle des classements dans notre communication qu'on ne doit parler que des classements. Alors, je suis le premier, quand je parle de l'ESSEC, à certes parler des classements, mais certainement pas à parler que de ça, parce que je ne pense pas que les classements sont le sens de la vie, même si Homo sapiens, c'est Homo classens. Il y a aussi d'autres dimensions à faire valoir, et notamment, malgré tout, dans l'idée même d'université et d'enseignement supérieur, il y a l'idée de liberté, il y a l'idée de liberté intellectuelle, de développement de la liberté de l'étudiant. Donc cette dimension-là, elle est souvent très, très qualitative. Elle peut se mesurer dans des classements par l'opinion que les étudiants ont de cette dimension ou l'opinion que les professeurs ont de cela. Mais cette liberté ne se résout pas en équation mathématique. Donc il y a une dimension technique, mathématique, un peu semi-scientifique des classements qui existe, qui est un fait, qu'il faut sans arrêt améliorer, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Et puis, il y a une dimension qu'on peut appeler plus littéraire, plus qualitative, qui est irréductible et qu'il faut évidemment savoir faire valoir. Par exemple, dans le cas de l'ESSEC, je dis très volontiers, si vous êtes étudiant à l'ESSEC, il va vous arriver quelque chose hors du commun. Il ne va pas se passer la même chose qu'ailleurs. Et ça, ce n'est pas le classement qui va le dire. C'est l'expérience que vous allez vivre dans l'école. Et bien entendu, toute institution est en situation de pouvoir dire ça.
Bien, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a d'autres interventions, une question? Alors, j'ai demandé à Phil Betty, quel regard porte-t-il justement sur les établissements français qui l'a classé récemment sur la réputation, enfin, en interrogeant un panel de décideurs académiques. Quel est votre regard sur le système français actuellement, justement?
Eh bien, écoutez, je pense qu'il y a une certaine ironie. La France a affaibli sa réputation à l'échelle internationale en s'inquiétant trop des classements. Je pense que les réformes qui ont été encouragées en partie par M. Sarkozy et par sa volonté de réussir à Shanghai, si vous voulez, dans les classements Shanghai, où tout ce qui est grand est important, a finalement un petit peu endommagé la vision, la perception des institutions françaises, parce qu'il y a un manque de vision et de clarté, si vous voulez, en ce qui concerne la structure des universités françaises. Donc vous avez de grands noms dans l'histoire intellectuelle ici à Paris. Vous avez un patrimoine incroyable en termes d'apprentissage, d'excellence. Mais les réformes et les restructurations ont un petit peu endommagé cette image, ont créé une certaine confusion, notamment bureaucratique. En ce qui concerne le prestige à l'échelle internationale, ça a créé des soucis. Donc, s'il y a une ironie, en essayant d'être visible dans les classements de Shanghai, vous avez perdu une partie de cette visibilité. Alors, pour conclure, récemment, j'ai eu l'honneur de visiter les universités CIT, par exemple. Et ce qui m'a frappé lorsque j'essayais de comprendre quel était le secret de leur réussite, Eh bien, c'était qu'elle ne s'inquiétait finalement pas du moindre des classements. Elle avait une mission, elle s'attachait à mener à bien cette mission. Bon, ça marchait. Sa mission, c'est la liberté intellectuelle, pas de contraintes en matière de publication, de recherche, et c'était vraiment très rafraîchissant finalement. Donc il ne faut pas trop s'attarder sur les classements, il faut aussi s'intéresser à ce qu'on sait faire de mieux. Bon, c'est un point de vue extérieur.
Bon, pour conclure cette table ronde, Jean-Michel Blanquer.
Les derniers mots de Phil, justement, c'est-à-dire j'adhère totalement à ce qui vient d'être dit, hein, c'est-à-dire que ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure sur la liberté. Et en tant que chef d'un établissement, en tant que président d'université ou directeur d'école, ou quel que soit le nom que ça prend, en tant que responsable d'un établissement, je pense qu'une de nos responsabilités, c'est d'être un outil d'interface entre la question du classement et la question de la pression qui s'exerce en interne. Autrement dit, le classement, on doit, un peu comme pour une protection solaire, garder ce que ça a de bon pour stimuler le système et filtrer ce que ça a de mauvais pour le stress. Je pense qu'un bon professeur d'université du futur n'est pas quelqu'un qui est totalement guidé par la question des classements, d'autant qu'il y en a presque 365 par an, et que justement la liberté académique, la créativité intellectuelle, la façon d'être dans la transmission des savoirs, etc., tous ces enjeux majeurs de la vie de l'enseignement supérieur supposent un certain type de vie, un certain type de vie collective en particulier, qui fait que on ne doit pas être dans ces espèces de logiques de clubs de foot dans lesquels on est parfois aujourd'hui, d'aller chercher celui qui va publier 3 articles l'année prochaine dans une revue classée 0+ à tel endroit pour le payer le plus cher possible, le faire revenir, avec des personnes qui jouent ensuite un jeu très individualiste et non pas un jeu d'équipe, alors que justement la dimension collective va être toujours plus dans le futur une dimension importante de la vie académique. Donc si on regarde les vrais enjeux presque éternels de la vie académique, c'est-à-dire à la fois la liberté personnelle, individuelle, mentale pour travailler, mais aussi la capacité à travailler en équipe pour la recherche, quelles que soient les disciplines dont on parle, ces deux éléments si importants pour après être de bonnes institutions sur le long terme supposent que l'on sache filtrer ce qu'il y a de positif dans les classements, garder donc ce qu'il y a de positif, et que l'institution en tant que telle sache faire la part des choses dans ce que ça suppose de stress ou de choses artificielles ou absurdes qui sont inévitables et qui sont sans doute des effets pervers qu'on aura toujours, même si on va les diminuer.
Merci. Sophie Béjean, quelques mots ?
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Jean-Michel Blanquer. Peut-être un point de vue sur à la fois les universités plus spécifiquement en France et sur les étudiants. Je pense que, au-delà du paradoxe ou de l'ironie que soulignait Phil sur l'attachement dans la politique universitaire en France au classement, les universités se sont mises dans une démarche qui était d'amélioration, de modernisation, d'amélioration des services, de la qualité des services en formation comme en recherche d'ailleurs, comme dans le lien avec le monde socio-économique. Et à cet égard, les caractéristiques de Multirank et de CERES, son volet français, s'inscrivent, je crois, pleinement dans cette volonté des établissements et qu'on voit aussi par ailleurs dans d'autres positionnements des universités françaises. L'autre remarque que je voulais faire, c'est à propos des étudiants. Moi, je suis vraiment très sincèrement convaincue, et ce n'est pas seulement parce que je préside le CNUS, le Conseil national des œuvres universitaires et scolaires, que les étudiants sont des jeunes adultes qui ont envie d'être acteurs de leur devenir et de leurs décisions. Et qu'en faisant ce choix et en se positionnant comme tel, et je pense que les enquêtes les plus récentes, comme celle de la génération Quoi, qui m'a passionnée ces derniers jours, montrent ça, et que du coup, ce n'est pas forcément des outils simples dont ils ont besoin. Ils ont besoin aussi de pouvoir mettre en avant des indicateurs qui seront en phase avec les valeurs et avec les aspirations qui sont les leurs. Et à cet égard encore, je pense que CERES, Humultirank, vont permettre ça. Et si on leur apporte en plus dans les établissements, dans les universités, une plus grande souplesse dans les parcours, etc., je crois qu'il y aura des évolutions qui seront appréciées très positivement par les étudiants à l'avenir.
Merci. Guéraud, un mot de conclusion ?
Oui, je pense que de toute manière, il ne faut pas trop se focaliser sur le classement. Effectivement, le classement peut ajouter une certaine couche de transparence. Notamment, il est vrai qu'on peut apprendre des choses au niveau des universités européennes, mais de toute manière, le classement ne donne pas toutes les informations. En fin de compte, un classement peut donner des informations supplémentaires, notamment des classements complexes, mais qu'il faut garder suffisamment simples pour qu'ils restent compréhensibles. Mais le classement ne répond pas à toutes les réponses de l'enseignement supérieur. Le classement, c'est un instrument, c'est un outil qui permet de comparer des indicateurs numériques. Ça ne permet pas d'avoir des comparaisons en profondeur. Donc, notamment pour les politiques ou les preneurs de décision, ça peut permettre de poser des questions, mais ça ne permet pas d'avoir toutes les réponses. Pour cela, il y a besoin davantage d'outils et un classement ne peut pas remplacer un système de vérification de qualité, qu'il soit national ou régional. Et les décisions ne peuvent pas se baser sur les chiffres du classement.
Pilbetti. Juste une dernière question. Quand le prochain classement du Times Higher Education, on part avec cette dernière information, c'est quand votre prochain classement ?
Eh bien, nous allons avoir différentes versions de notre classement, pareil que pour Guéraud. Et il est vrai qu'avec U-Multirank, on a des attentes plus fortes. Donc maintenant, on va avoir un classement sur la réputation et on en a un qui va sortir le 28 avril. On publie la publication des 50 meilleures institutions. Et on a ce sont des universités qui ont moins de 50 ans. Donc, on aura ce classement qui sortira le 30 avril. Mais sinon, ce sera les universités mondiales au mois d'octobre.
Tout compte fait, on va réfléchir à ça. Merci beaucoup à tous nos intervenants. Je remercie vraiment nos intervenants d'être venus de loin pour venir nous présenter ça. Et merci à tout le monde. Merci beaucoup.